Vous écoutez, on lit pour vous.
L'énorme richesse de la compagnie de l'abbé d'Hudson. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 29 mars 2025 dans Le Devoir. Autrefois pilier incontesté du commerce au Nouveau Monde, la compagnie de l'abbé d'Hudson, CBH, se retrouve aujourd'hui en pleine déroute financière. À son apogée, cette puissante entreprise dominait des territoires immenses, s'étendant sur des millions de kilomètres carrés. Ses domaines d'influence allaient du nord du Québec actuel jusqu'à des régions aussi éloignées que San Francisco. La CBH contrôlait la majeure partie des prairies canadiennes, au point de jouer un rôle central dans l'économie continentale de l'époque. À qui profitait réellement cette entreprise tentaculaire? Par où commencer pour mieux comprendre l'étendue de cette puissance désormais vacillante? Faisons pour commencer un pas de côté. En 2017, un tableau de jeunesse de Rembrandt trône au milieu d'une des plus prestigieuses salles des ventes à Londres. Chez Christie's, le tableau est adjugé pour la somme de plus 6,2 millions de dollars canadiens. L'œuvre provient de la descendance de la famille de Sir Richard Neave. Au 19e siècle, ce baronnet doit, comme d'autres, une part substantielle de sa richesse à la vente d'ailerons de baleine, de peaux d'orignaux, de plumes d'oie blanches mouchetées de sang, ainsi que de montagnes de fourrure de castor. Entre 1802 et 1808, ce Neave est en effet l'un des 9 gouverneurs de la compagnie de l'abbé d'Hudson. Sa descendance va profiter de son immense fortune. Les castors écorchés ont permis de meubler la vie d'hommes comme lui à un degré qu'il est difficile d'imaginer. La fondation. C'est en 1670 que la CBH est officiellement créée par le roi Charles II. En Amérique, le roi avait déjà découpé une partie du territoire en s'y arrogeant des droits à sa guise. Il avait, par exemple, offert une vaste baronnie en Virginie à quelques-uns de ses fidèles. Au cours de la décennie 1660, Pierre-Esprit Radisson et Médard Chouard Desgroseillers, deux aventuriers dont les allégeances varient au gré de leurs intérêts, font connaître l'énorme potentiel commercial de la baie d'Hudson. En avalisant la création de la CBH, le souverain trouve une façon de récompenser et de maintenir sous son emprise d'autres figures qu'il soutienne, comme le général George Monk, responsable de la répression en Écosse, le comte William de Craven, puis Lord Arlington, Lord Ashley, Sir John Robinson, Sir Charles Viner, et encore d'autres membres de la noblesse et de l'élite des marchands de Londres. Charles II leur offre, avec la CBH, un énorme cadeau. Par la grâce de Dieu, mais sans considération pour les populations autochtones, le roi décrète que ses hommes et les aventuriers à leur service bénéficient d'une charte perpétuelle. Elle leur permet de commercer à leur guise, d'abord dans la région située au nord du Québec actuel. Selon cette charte, l'entreprise se voit concéder un monopole sur le commerce sur toutes les mers, tous les détroits, baies, rivières, lacs, criques depuis l'entrée du détroit d'Hudson, mais aussi sur toutes les terres, tous les pays et tous les territoires adjacents à ces eaux, pour autant que ces espaces ne soient pas possédés déjà par des sujets du roi ou tout autre État. Cela va vite constituer un énorme territoire d'exploitation. Un pouvoir sans équivalent. La compagnie se substitue, sur ces énormes territoires, au pouvoir du souverain britannique lui-même. En vertu des droits que lui confère le roi, elle peut imposer des peines et des sanctions, à condition qu'elles soient raisonnables et qu'elles ne soient pas contraires aux lois de l'Angleterre. Dans les faits, les mesures judiciaires prises par la compagnie pour s'imposer ne sont pratiquement jamais contrôlées par Londres, tandis que les profits énormes qu'elles génèrent, eux, ne cessent d'y parvenir. En 1838, des lords, d'un comité du Conseil privé pour le commerce ont examiné les affaires de la CBH. On comprend, par ces documents, que la compagnie a multiplié sa valeur à une vitesse folle. Malgré des heurts coûteux avec les Français au commencement de ses affaires, un examen de la compagnie indique que les bénéfices payés sur le capital social souscrit à l'origine ont été 60 % à 70 % par an des années 1690 à 1800. En 1857, il était estimé que CBH avait tiré de l'exploitation du Canada au moins 20 millions de livres sterling. À une époque où le pouvoir d'achat était énorme par rapport à aujourd'hui, il faudrait multiplier ce chiffre un nombre considérable de fois pour avoir une vague idée de ce que pareille somme peut représenter. En échange de couteaux, de billes de verre, d'aiguilles de fer, de couvertures grises, de fusils à poudre noire, de brandy et de ressources alimentaires, la compagnie de la baie d'Hudson fait main basse sur la chasse des Autochtones et des Canadiens. Les grands profits sont tirés non seulement de l'exploitation systématique de ces populations locales, mais aussi des employés de la compagnie. Des faits à cet égard sont exposés devant le comité d'enquête de la Chambre des communes britanniques en 1749. Prenons le cas de John Hayter. Il est charpentier pour la compagnie de la baie d'Hudson à Moose River, à Churchill et à Albany. Il témoigne que les serviteurs de la compagnie, comme on appelait ses employés, étaient affamés, bien qu'il y eût assez de victuailles dans l'entrepôt. D'autres témoignages parlent d'hommes fouettés pour avoir fait du troc avec les Autochtones. Dans quantité de témoignages d'époque, il appert que la CBH presse le pays comme un citron et emporte avec elle tous les sucres. Vous écoutez « L'énorme richesse de la compagnie de la baie d'Hudson », un texte de Jean-François Nadeau, paru le 29 mars 2025 dans Le Devoir. Fusion et acquisition. Après la conquête britannique de la Nouvelle-France en 1763, l'emprise de la compagnie s'est étendue encore plus fermement vers l'ouest. En 1821, la compagnie de la baie d'Hudson et la compagnie du Nord-Ouest vont fusionner après des heurts terribles et sanglants. Cette dernière, dirigée depuis Montréal par de riches Écossais comme Simon MacTavish, Joseph Frobisher ou Alexander Mackenzie, se fond dans la première. Grâce à cette fusion, la CBH étend aussi son pouvoir sur ces territoires jusqu'à ce qu'ils lui soient rachetés par l'État pour en faire de nouvelles provinces à compter de 1870, avec l'usage de la force. Encore une fois. Les villes de Winnipeg, de Calgary et d'Edmonton, aujourd'hui courtisées par des politiciens en campagne électorale, ne sont longtemps que quelques-uns des points de commerce de l'empire commercial de la CBH. Sous l'effet de la révolution industrielle et de l'expansion du capitalisme, la CBH va muer. Ses comptoirs commerciaux, disséminés un peu partout, dans le Nord en particulier, vont se voir éclipsés progressivement, du moins dans l'esprit du public, par l'apparition de vastes magasins à rayons. Les enseignes de la baie d'Hudson apparaissent de plus en plus dans les centres urbains. La CBH n'en demeure pas moins attachée à son histoire, comme le prouvent quantité de produits décorés à ses couleurs, les mêmes qu'au temps de la traite des fourrures. En 1972, à Montréal, le nom de la baie se substitue, rue Sainte-Catherine, à celui de la célèbre enseigne Morgan, un des grands magasins à rayons de la ville depuis le 19e siècle. Morgan avait été rachetée par la CBH en 1960, comme elle avait par le passé avalé d'autres concurrents. Des archives uniques. Les archives de la CBH comptent parmi les plus importantes du genre au monde. Sans elles, impossible de comprendre l'histoire de l'Amérique du Nord. Ces documents sont conservés au Hudson Bay Company Archives, HBCA, situé à Winnipeg, au sein des archives publiques du Manitoba. Ces documents témoigne de la formidable influence de la CBH au fil des siècles. Ces documents sont riches notamment en ce qui a trait à l'histoire des peuples autochtones. Des mètres linéaires de documents contiennent des informations précieuses sur les interactions entre les employés de la CBH et les peuples autochtones, y compris les relations commerciales, les échanges culturels et les conflits. Elles éclairent, par un effet de miroir, le rôle fondamental des communautés autochtones dans le développement du commerce au Canada. Rien d'étonnant à ce que les communautés autochtones au Canada s'intéressent de près désormais à ces archives pour mieux comprendre leur trajectoire. En novembre 2024, les Anishinabés de la région de Val-d'Or ont obtenu la possibilité de récupérer, pour les diffuser sur Internet, les éléments des archives de la CBH qui les concernent. C'était la deuxième communauté autochtone au Canada à conclure une entente du genre avec les archives de CBH. Sur le plan de l'exploitation coloniale et politique, les archives de la CBH fournissent aussi de riches informations sur les pouvoirs en place, les politiques et l'influence exercée par la compagnie dans la structuration des premières institutions canadiennes. À travers cette montagne de documents, se trouvent des éléments pour servir une histoire de la vie quotidienne. Les archives contiennent des journaux personnels, des correspondances, des registres, des documents des employés de la CBH et de leurs familles qui donnent des détails sur le quotidien dans les différents postes de traite, leurs défis, leurs relations, leurs routines, leurs malheurs. Malgré la déroute des activités commerciales de la CBH, ces archives-là n'apparaissent pas en danger. Reste à savoir ce qui sera conservé du présent à la suite des liquidations en cours ce printemps. C'était l'énorme richesse de la Compagnie de la baie d'Hudson, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 29 mars 2025 dans Le Devoir.
N'écoutez pas les vidéos qui démonisent le pédialyte, disent les experts. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 4 avril 2025 dans Le Devoir. Sur les réseaux sociaux, des dizaines d'internautes américains ou canadiens incitent les parents à cesser d'acheter pour leurs enfants du pédialyte, une solution orale de réhydratation en cas de gastro-entérite. Contrairement à ce qu'affirment ces gens, ce mélange n'est pas toxique, assurent des professionnels de la santé consultés par Le Devoir. Depuis quelques années, des dizaines de vidéos s'en prenant au pédialyte circulent sur TikTok et Instagram. Les plus visionnés cumulent des centaines de milliers de vues. Récemment, des comptes d'utilisateurs du Canada et même du Québec diffusent des messages similaires. Les internautes en question reprochent surtout au pédialyte d'être toxique parce qu'il contient des colorants alimentaires artificiels et qui seraient liés à des problèmes de santé comme le cancer et qui causeraient de l'hyperactivité. Certaines personnes estiment qu'il y a trop de sucre dans cette solution, tandis que d'autres disent qu'elle ne permet pas une bonne réhydratation. Ce sont de fausses informations, lance d'emblée Marie-Michèle Gazal, pharmacienne et vulgarisatrice scientifique sur les réseaux sociaux. C'est important pour moi de rétablir les faits à propos du pédialyte, car des renseignements erronés comme ceux qui circulent peuvent amener les parents à prendre des décisions dangereuses pour la santé de leurs enfants, dit-elle. Certains pourraient, par exemple, choisir de donner à leur bambin un autre produit qui, lui, ne serait pas efficace pour les réhydrater, craint-elle. L'efficacité et l'innocuité du pédialyte, elles, ont dû être démontrées avant sa mise en marché, relève-t-elle. Dans le pédialyte aux fruits, on trouve globalement de l'eau, des sels minéraux, des saveurs, des glucides, des édulcorants et des colorants artificiels. Madame Gazal explique entre autres qu'il est normal qu'il y ait du sucre dans cette solution. Il faut qu'il y ait un mélange équilibré de sucre et d'électrolytes pour assurer qu'une fois le produit ingéré, le corps garde l'eau au lieu de continuer à l'évacuer lors de vomissements ou de diarrhées. la pharmacienne fait une mise en garde contre les internautes qui démonisent les colorants artificiels qu'on trouve dans le Pédialyte. Les études sur ces colorants n'ont pas établi de lien de causalité avec le cancer ou d'autres potentiels effets nocifs pour la santé chez l'humain lorsque ces substances sont présentes en petite quantité comme elles le sont dans le Pédialyte. Il est d'ailleurs important de mentionner qu'il existe du Pédialyte sans colorant. Jointe par le devoir, Santé Canada rappelle qu'il est possible de consulter la liste des colorants alimentaires autorisés au pays. En ce qui concerne plus précisément le lien potentiel entre certains colorants alimentaires synthétiques et l'hyperactivité chez les enfants, le ministère soutient avoir étudié le sujet. À ce jour, aucune preuve n'a démontré que ces colorants causeraient ces effets compte tenu de leur utilisation autorisée, écrit-il. Appelée à réagir, la compagnie Abbott, qui fabrique le Pédialyte, affirme qu'il s'agit d'une solution appuyée par plus de 10 études cliniques et 50 ans d'histoire au Canada. C'est un produit sécuritaire qui est homologué par Santé Canada, écrit-elle. Crainte à l'égard des produits chimiques. Il faut faire attention aux discours d'internautes qui soutiennent qu'un produit est toxique parce qu'il est chimique et qu'un autre est bon parce qu'il est naturel, soulève Jonathan Jarry, communicateur scientifique à l'Organisation pour la science et la société de l'Université McGill. Cette idée est très séduisante, mais tout simplement fausse. Tout est une question de quantité et non de provenance, explique-t-il. Il y a plusieurs substances naturelles, comme l'amiante ou le venin de serpent, qui nous font du mal, et plusieurs substances synthétiques qui sont sécuritaires pour l'être humain. Aux États-Unis, la crainte à l'égard des produits chimiques et des colorants synthétiques est très répandue, observe M. Jarry. Récemment, l'Agence américaine des aliments et des médicaments, FDA, a banni l'usage du colorant rouge artificiel numéro 3 dans les denrées alimentaires et les médicaments. Celui-ci n'est toutefois pas présent dans le Pédialyte. Cette annonce ne découle cependant pas d'une réévaluation de l'innocuité de ce colorant, explique Sylvie Turgeon, professeure au département des sciences des aliments de l'Université Laval. L'agence l'a banni à cause de l'aboutissement d'une pétition de diverses associations qui l'obligeait à respecter une loi. Celle-ci stipule qu'une substance causant le cancer chez les animaux ne peut être utilisée pour les humains. Or, dans les deux études qui montrent que ce colorant rouge provoque le cancer chez les rats de laboratoire, il s'agit d'un cancer endocrinien spécifique à l'espèce animale. C'est impossible que ça se développe chez l'humain, précise Mme Turgeon. De son côté, Santé Canada avait affirmé avoir examiné une réévaluation de ce colorant faite en 2018 par un comité mixte des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé. Ce comité avait conclu qu'il ne présentait aucun danger pour la population en tant qu'additif alimentaire. Eau de coco et recettes maison. Dans certaines vidéos, des internautes qui s'en prennent au Pédialyte disent opter plutôt pour un choix naturel afin de réhydrater leurs enfants, soit l'eau de coco. Je ne le recommande pas en cas de gastro, dit cependant la docteure Geneviève Tourigny-Ruel, pédiatre urgentiste au CHU Sainte-Justine. Quand je regarde les apports nutritionnels de l'eau de coco, ce sont surtout des glucides. C'est la même chose pour les jus et les boissons sportives, explique-t-elle. Or, à long terme, la forte teneur en sucre de ces boissons peut augmenter les diarrhées et participer à la déshydratation, prévient la pédiatre. Il vaut alors mieux avoir recours au Pédialyte ou à d'autres mélanges commerciaux de réhydratation de ce type, indique-t-elle. Ceux-ci contiennent le bon ratio de sucre et de sel pour que le corps puisse bien se rétablir. Il est aussi possible de préparer une solution maison de Pédialyte, mais il est bien important de respecter les proportions exactes, souligne la médecin. La recette se trouve en ligne sur les sites de nombreux établissements de santé. De façon générale, la déshydratation chez l'enfant n'est pas à prendre à la légère, prévient la pharmacienne Marie-Michèle Gazal. On ne veut pas être rendu à se dire qu'on va essayer l'eau de coco, puis finalement se retrouver à l'urgence. Au moment où ces lignes étaient écrites, le Devoir n'avait pas reçu de réponse aux demandes d'entrevue faites à des internautes qui critiquent le pédialyte. C'était « N'écoutez pas les vidéos qui démonisent le pédialyte, disent les experts », un texte de Florence Morin-Martel paru le 4 avril 2025 dans Le Devoir.
Qu'est-ce qu'une bonne chaussure? Un texte de Catherine Anfield, paru le 30 mars 2025 dans La Presse. Pour le bien-être des pieds, est-ce une bonne chose d'éviter les talons hauts? Est-il préférable de porter des baskets à longueur de journée? Qu'est-ce que c'est une bonne chaussure? Un podiatre et un physiothérapeute font le point. Modération. Les avantages du talon haut, s'il faut en trouver, sont esthétiques. Parce que d'un point de vue mécanique et fonctionnel, le talon haut n'a pas de plus-value. Au contraire, ça n'a jamais été bon et ça ne le sera jamais, résume le podiatre Gabriel Moisan, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR. Après, est-ce que je suis complètement contre le port du talon haut? Non. Tout a sa place si le contexte est le bon. Si on porte des talons hauts pour une sortie au restaurant, par exemple, l'impact sera minimal, dit-il. Si on veut faire des marches en talons hauts ou rester debout pendant 3 heures, c'est une autre histoire. Divers risques. Le talon haut concentre la pression sur les structures à l'avant du pied qui ne sont pas adaptées à cela, résume Gabriel Moisan. On va avoir des douleurs mécaniques, de l'inflammation dans les articulations du devant du pied, explique-t-il. C'est là que la peau va se défendre en formant de la callosité. À long terme, c'est là aussi qu'on peut voir des déviations des os, comme l'hallux valgus ou oignon, des orteils qui deviennent en marteau, des douleurs au bas du dos. Les gens qui portent des talons hauts sont aussi plus à risque de se tordre la cheville. Perte d'amplitude. Des gens se sont habitués aux talons hauts et les portent sans douleur. Si la personne est en santé et qu'elle varie le type de chaussures, chaussures sport, nu-pieds à la maison, etc., le physiothérapeute Yann Boiron n'y voit pas de problème. Toutefois, à long terme, le port prolongé du talon haut peut carrément raccourcir le mollet, la cheville perd de l'amplitude, ce qui déséquilibre vers l'arrière, explique Yann Doiron. En vieillissant, cette perte de stabilité est problématique, prévient-il. Certaines personnes ne sont plus capables de porter des chaussures plates. Pas tous égaux. Les talons hauts ne sont pas tous égaux. Les talons aiguilles sont particulièrement instables et les souliers étroits compressent davantage les orteils, ce qui met à risque de développer un oignon et rend plus instable. La hauteur du talon a aussi un impact. Déjà à 4 cm, il y a des effets sur la posture et la démarche, explique le physiothérapeute Yann Doiron, formé en réadaptation posturale globale. Et à 10 cm, c'est rendu vraiment présent. Selon le podiatre Gabriel Moisan, le talon ne devrait pas être surélevé de plus d'un centimètre. Ceux qui veulent éviter cela ont tendance à prendre des souliers à plateforme, observe-t-il. Mieux les baskets? Les baskets ont des avantages que les talons hauts n'ont pas. Elles sont plus près du sol, donc plus stables, et souvent plus larges, note Yann Doiron. Si l'objectif est de rester debout longtemps, le physiothérapeute évoque un petit bémol. Certaines baskets ont des semelles très rigides. Si j'ai à marcher longtemps, je vais être mieux avec une chaussure capable de bouger un peu.